Maintenant, nous allons interroger Prospective Jeunesse, est un centre d'études et d'information actif de prévention des risques liés aux usages de drogue. Bonjour.
Bonjour.
Pouvons-nous venir vous voir si on a un problème de consommation?
Alors, dans notre équipe, on a une psychologue, donc n'importe quelle personne qui a des questions sur sa consommation, des problèmes liés à sa consommation ou des proches de personnes qui ont des consommations peuvent venir la voir et essayer avec elle de trouver une solution à la situation.
C'est quoi la drogue?
La drogue, c'est un bien grand mot. Il vaut mieux préférer le terme produit psychotrope. Si on parle de produits, mais la drogue, ça peut aussi être l'amour, comme on disait, ça peut aussi être le sport. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent amener à des comportements de dépendance.
Quelle drogue rend accro à la première prise?
Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que si on prend certains produits, ben, on est accro tout de suite. Nous, dans le secteur de la promotion de la santé, dans le secteur des assuétudes, on considère qu'il n'y a aucune drogue qui rend accro à la première prise, à part peut-être l'amour.
Pourquoi certaines drogues sont-elles illégales?
Alors, ça aussi, c'est une bonne question. Malgré ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est la plupart du temps pas lié à des questions de santé publique, donc à des questions de... on va dire de toxicité des produits, mais plutôt lié à des considérations géopolitiques et économiques. Donc, par exemple, aux États-Unis, on a rendu le cannabis et la cocaïne illégales à un certain moment donné de l'histoire, au début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, et c'était lié en fait aux immigrations massives, notamment de populations mexicaines qui arrivaient sur le territoire américain et qui, d'après certaines personnes, prenaient le travail des Américains. Et donc, comme ces populations consommaient de manière traditionnelle du cannabis, c'était une manière de, en rendant le cannabis illégal, c'était une manière de stigmatiser et finalement de garder ces populations un peu à l'écart. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Quels sont les risques du cannabis?
Alors, c'est de ne pas arriver à se lever le matin. Il y a des risques en termes de mémoire à court terme. Il y a évidemment tous les risques liés à la consommation de tabac, puisque la plupart du temps, c'est consommé avec, c'est dans un joint avec du tabac. Et donc, et le tabac, c'est quand même la drogue qui tue le plus en Europe et même dans le monde, je pense, aujourd'hui.
Donc, la drogue?
Le tabac, c'est une drogue.
Ah, le tabac, oui.
Okay. Oui. La question, c'est pas est-ce que le cannabis est dangereux ou pas. La question, c'est quelle est la place que je donne à telle ou telle consommation dans ma vie.
Vous consommez quelque chose, vous?
Ah ben, moi, je consomme plein de choses. Je pense que personne autour de cette table ne peut répondre négativement à cette question. Du café, du lait, du thé, du chocolat, ce sont toutes des drogues.
Avez-vous déjà eu des expériences? Si vous voulez en parler.
Des expériences, ben écoutez, oui, ça, c'est une très bonne question, mais je vous laisse y réfléchir.
À ce point-là?
Ben donc, qu'est-ce que je pourrais raconter? Oui, j'ai déjà fait une overdose de café. Enfin, j'ai pris trop de café, donc j'avais les mains qui tremblaient, etc. Okay. Donc, oui. Donc, je me suis rendu compte que j'avais pour certains produits, j'avais des doses limites auxquelles je dois respecter.
Tout ce qui est produit du plaisir est-elle une drogue?
C'est aussi une bonne question parce que le plaisir, effectivement, comme le besoin de se détendre, de se donner la pêche, ça fait partie des besoins essentiels de l'être humain. Donc le plaisir fait partie de l'expérience humaine et on ne peut pas vivre sans plaisir. Comment est-ce qu'on se donne du plaisir? C'est une question qu'on doit tous se poser. Et quelle place on donne aux différents comportements, aux différentes activités qui nous apportent du plaisir? C'est là que la question va se poser en termes d'abus, de dépendance ou de consommation raisonnée et raisonnable.
Peut-on considérer que l'on soit accro aux objets électroniques?
Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, on peut être accro à plein de choses. On peut être accro au jogging, on peut être accro à son chien, on peut être accro effectivement à son téléphone portable. L'autre jour, on était dans une formation, il y avait quelqu'un qui nous expliquait, on posait la question des prises de risque et la personne nous dit qu'elle avait tendance à rester sur son téléphone portable pour répondre aux messages sur Facebook, même quand elle était en voiture. Et un jour, elle a fait un gros accident comme ça. Et elle s'est rendue compte qu'elle prenait des risques pour sa vie à cause de son besoin de rester connecté sur son téléphone. Et donc, elle a dû mettre son téléphone dans son sac, dans son coffre pour pouvoir résoudre ce problème-là. Mais effectivement, on peut développer toute une série de problématiques autour des objets électroniques. Internet, le téléphone, tout ça, ce sont des outils qui peuvent être... Tout dépend de ce qu'on va en faire, de la place qu'on va leur donner dans notre vie.
Y a-t-il une différence de comportement entre les filles et les garçons ?
Oui, il y a des petites différences, effectivement. Si on regarde sur les statistiques et des populations en âge scolaire, on voit qu'il y a effectivement des petites différences en termes de consommation, alcool, drogue, cigarettes, et que les âges sont aussi un petit peu différents. Donc on commence un peu plus tôt chez les garçons et un peu plus tard chez les filles, mais il n'y a pas de grosses différences. Et finalement, voilà ce que moi je dis, c'est que tout le monde a des comportements qui peuvent être à risque. Voilà.
Est-ce qu'il y a quand même un moment donné où on peut dire, bah, tiens, t'es dépendant à un tel produit, voilà. Est-ce que c'est, je sais pas moi, 2 cigarettes par semaine, 1 cigarette par jour, ça suffit pour dire qu'on est dépendant ? Bon, pareil pour l'alcool, est-ce que c'est un verre d'alcool par jour, on est...
Alors, non, on peut pas, y a pas de règle universelle pour dire qu'à partir de telle quantité, tout le monde va être dépendant. C'est quelque chose d'extrêmement relatif et d'extrêmement subjectif qui va dépendre en partie de la diversité des activités que la personne a mis en place dans sa vie. Quelqu'un qui n'aurait que les jeux vidéo, le cannabis et la pizza comme activité dans sa vie, ben effectivement, le jour où il n'a pas son joint ou bien il y a une panne de courant, il est démuni parce qu'il n'a pas d'autres ressources à sa disposition. Quelqu'un qui fume un joint de temps en temps, le vendredi soir avec ses amis, ou même de temps en temps devant la télé chez lui le soir, le jour où il n'en a pas et qu'il ne reste pas calé là-dessus et qu'il ne fait pas 3 fois le tour de la ville pour en trouver, mais qu'il sort faire sa balade ou bien il va jouer au foot ou bien il lit un bouquin, il prend un bain, je ne sais pas quoi, et qu'il a une diversité d'autres ressources pour se faire plaisir, pour répondre à ses motivations de plaisir, de détente et de pêche, alors on peut pas dire qu'il soit réellement dépendant. Ma limite en termes de consommation de tel ou tel produit sera pas la vôtre, et chaque personne a ses propres limites en termes de consommation. Bon, quel est le sens de cette consommation et qu'est-ce que je vais chercher dans cette consommation, et pas oublier qu'on consomme toujours au départ pour des motivation positive, parce que ça procure du plaisir, ça permet de se détendre. Et la question est, quelles sont mes différentes ressources, les différentes manières que j'ai à disposition pour répondre à ces motivations-là. Si j'ai qu'une manière de me faire plaisir, qu'une seule manière d'être valorisé, forcément, je serai beaucoup plus démuni le jour où je serai beaucoup plus fragilisé à cause de cette utilisation de la place que finalement ce comportement va prendre dans ma vie. Mais si je peux effectivement me reposer sur toute une série d'autres ressources, la question se pose, j'ai un équilibre dans ma vie et je peux jongler d'une ressource à l'autre de manière à ne pas me sentir coincé le jour où j'ai pas accès à tel ou tel comportement, telle activité, tel produit. Donc oui, il y a une question de place qui joue, mais qui est en lien avec ce qu'on met d'autre, ce qu'on met en place d'autre dans sa vie. Donc l'idée, c'est pas pour diminuer une consommation, on a tendance à vouloir travailler uniquement sur le comportement. En promotion de la santé, ce qu'on dit, c'est que pour ramener une consommation problématique à un stade raisonnable, il faut travailler sur le développement d'activités, d'intérêts, de centres d'intérêt extérieurs à cette consommation à ce ou à cette, ce comportement problématique pour le ce qui va automatiquement le ramener dans un dans, à une situation plus gérable. Personne ne peut obliger quelqu'un en termes de consommation, on fait prendre des risques, il prend des risques que pour lui-même, ça c'est vrai. La question à se poser, c'est voilà, de nouveau, est-ce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait l'intéresser quelque part? Est-ce que, voilà, c'est une petite planète, la vie est courte, c'est à lui de décider ce qu'il va faire de son temps sur cette Terre. Après, on peut très bien comprendre que pendant un certain temps, on puisse s'intéresser, on puisse ne pas s'intéresser à certaines choses, ou bien passer beaucoup de temps devant sa console ou à fumer des joints. C'est des choses aussi qui passent au bout d'un moment. Donc je pense que dans un sens, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter a priori. Forcer quelqu'un à ne pas consommer, ce n'est pas concevable, ça c'est impossible.
Merci beaucoup. Quelle incidence la dépénalisation a-t-elle sur la prise de drogue en fait ? Est-ce qu'on constate que dans les pays où la drogue est dépénalisée, il y a une diminution de prise de drogue ?
Alors, donc là, vous faites référence au modèle hollandais où c'est une drogue bien particulière qui est dépénalisée. C'est-à-dire que comme le produit en question n'est plus illégal, donc il est moins tabou, les gens, les consommateurs, les parents développent des discours autour de la manière dont il faut fumer ou ne pas fumer. Un petit peu comme chez nous, on apprend à boire dès notre enfance. On sait qu'on ne boit pas n'importe quoi, dans n'importe quelle quantité, n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle heure, avec n'importe qui. C'est pareil pour toutes les drogues. Il y a des normes de consommation, il y a des manières de consommer, quel que soit le produit. Et ça, un pays qui maintient la drogue dans l'illégalité empêche la construction du discours. Ouais. Mais du coup, effectivement, le fait de garder une drogue illégale ou un produit illégal a un certain nombre de conséquences sur la qualité des produits puisqu'elles ne sont pas contrôlées. On ne sait pas qui vend, on ne sait pas qu'est-ce qui est vendu, on ne sait pas à qui c'est vendu, on ne sait pas où c'est vendu. Donc c'est laissé, il y a un flou autour du circuit de production, distribution, qui est tout à fait néfaste pour les consommateurs, évidemment. En termes de santé publique, c'est un vrai désastre de garder ces produits illégaux, quoi.
Des exemples d'actions prospectives jeunesse.
Oui, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc on travaille pas mal dans le milieu, en milieu scolaire, et on aide les enseignants, les éducateurs à mettre en place des projets au sein des classes et de manière transversale. On essaye de mettre en place des projets qui fassent participer les élèves, qui mettent les élèves à la manœuvre. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit eux qui gèrent le projet du début à la fin et que voilà, qu'il y ait une réalisation et qu'ils se rendent compte qu'ils ont réellement fait quelque chose. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre un petit peu le cadre particulièrement rigide du monde scolaire, et on fait rentrer des professionnels de la vidéo, du théâtre dans le cadre scolaire, et ça permet de retourner parfois un petit peu les dynamiques de classe et de faire en sorte que certains jeunes se découvrent des talents ou des jeunes qui sont pas du tout valorisés en cadre scolaire classique se rendent compte que finalement, ben voilà, ils ont quand même des choses à apporter. Donc ça, c'est un type de projet qu'on mène. Un autre type de projet qu'on mène par exemple dans des AMO ou dans des centres de jour ou d'accueil. Donc nous, on travaille plus avec les adultes, on travaille avec les professionnels. Un travail qu'on fait régulièrement, c'est d'essayer de mettre autour de la table toute l'équipe éducative de façon à ce qu'ils développent une grammaire commune, un langage commun, qui est moins de failles dans la réponse institutionnelle de l'équipe éducative par rapport aux questions de consommation. Et finalement, on se rend compte que quand on décrispe l'équipe éducative, les éducateurs autour des questions de consommation, et finalement les jeunes utilisent moins ces questions-là pour entrer en conflit et pour entrer en opposition au monde des adultes et à l'autorité. Et donc ça de fait, ça résout en partie certains, ça ne diminue peut-être pas la consommation, mais ça résout toute une série de problématiques autour des consommations dans l'institution.